Mon travail, il se met dans le prolongement de ce livre qui est paru juste l'année dernière. Et c'est une étude qui part d'un ancrage tout à fait concret dans mon terrain, qui est la Sibérie, et il part de l'étude des jeux sibériens. Je n'analyse pas le concept de jeu, j'analyse le processus du jouet, ce qui m'évite d'avoir à m'occuper des réalisations. C'est le processus du jouet qui m'intéresse. Donc le play en anglais, bien évidemment. Je vais commencer par, en cavalant, de façon un petit peu caricaturale, vous résumer ce que sont ces jeux sibériens, mais après avoir posé le problème de la réalité comme étant tout à fait central, du rapport à la réalité comme étant central dans beaucoup d'études. Je dirai aussi quelle est ma position de départ, et ensuite, je vous proposerai donc d'aller faire un petit tour, pourquoi les jeux sibériens s'appellent virils, et comment ça rejoint la question de la virtualité, donc en rapport au réel. Nous avons la notion de réalité qui est au centre d'un certain nombre de définitions classiques. Je me baserai sur celle de Gregory Bateson. Je vous la lis. Ce qui est propre au jeu, c'est que ce terme désigne des contextes dont les actes constituants ont une pratique et une réalisation différentes de celles qu'ils auraient dans le non-jeu. Donc, il ne met pas directement l'action sur la réalité, mais sur le fait que ce qu'on y fait a un autre sens que dans la réalité empirique. Alors, je voudrais juste vous rappeler l'anecdote qui conduit Bateson à cette définition. Et c'est une anecdote qui est connue sous le nom de la morsure ludique. Il dit « Et pourtant, ce que j'ai vu au zoo, ce n'était qu'un phénomène banal. J'ai vu jouer deux jeunes singes, autrement dit deux singes engagés dans une séquence interactive dont les unités d'action ou signaux étaient analogues mais non pas identiques à ceux du combat. Il était évident, même pour un observateur humain, que la séquence dans sa totalité n'était pas un combat. Il était évident aussi que pour les singes eux-mêmes, ceci était un non-combat. Or, ce phénomène n'est possible que si les organismes qui s'y livrent sont capables d'un certain degré de métacommunication, c'est-à-dire s'ils sont capables d'échanger des signaux véhiculant le message « ceci est un jeu ». Alors, cette anecdote a un triple mérite. D'abord, elle rappelle que l'activité que nous appelons « jouer » existe tout autant chez l'animal que chez l'homme. Deuxièmement, elle montre qu'il y a quelque chose que l'on appelle contexte ou cadre, Bateson dit frame or context, ou situation, qui fait comprendre qu'il s'agit d'un jeu. Et troisièmement, elle montre aussi que ce contexte ou cadre, qui fait interpréter un cadre comme jeu, dans le même temps renvoie à un acte du même ordre qui ne serait pas un jeu, c'est-à-dire la morsure ludique, à la fois n'est pas une morsure et ressemble à une morsure. Autrement dit, il n'y a ni totale similarité, ni totale altérité entre l'acte effectué comme jeu et celui auquel il ressemble et qui n'est pas effectué en tant que jeu. Il y a plutôt une sorte d'écart ou de décalage. Ces trois propriétés sont illustrées par les données sibériennes. Mon terrain particulier, ce sont les bouriates, donc tout autour du lac Baïkal, la Mongolie, au nord de la Mongolie. Mais je parlerai un petit peu des voisins aussi, parce que je les connais un peu. Et ce sont des langues voisines, elles appartiennent toutes au même groupe de langues qui est le groupe altaïque. Alors, pour tous ces peuples, c'est les jeux qu'ils font périodiquement, ce sont des jeux annuels, ont une très forte charge rituelle, ils sont tout à fait importants pour eux, et une très forte charge identitaire, et elles persistent à travers les changements de régime politique. Sous l'Empire des Tsars, c'était des jeux de deux types, la lutte et la danse. Je regroupe sous lutte les jeux de compétition entre hommes, et sous danse, les jeux qui sont mixtes et qui n'ont pas d'enjeu compétitif en principe. Et en l'espace d'un siècle, ces populations ont vu trois types de régimes sous lesquels les mêmes jeux se sont conservés, enfin, des jeux se sont conservés avec les mêmes fonctions identitaires et rituelles, mais en changeant dans leur composition. Et à toutes les époques, ils ont été considérés comme étant obligatoires pour les peuples concernés. Il fallait y participer absolument. À la fois parce que c'était exprimer, confirmer leur appartenance, et aussi parce qu'il est attendu de ces jeux un effet, que je mets entre guillemets, un effet favorable sur l'avenir proche, mais qui a été diversement qualifié selon les époques. Cet effet favorable, sous l'empire des tsars, pour les peuples sibériens, qui étaient des peuples nomades qui vivaient de chasse et d'élevage, c'était pour que la saison soit bonne, c'est-à-dire qu'on ait du gibier, ou que les pâturages soient abondants. C'était ça à cette époque-là, et il y en avait à l'échelle de tous les petits groupes de campements. Dans le cadre de l'URSS, ça s'est passé à une échelle un peu plus importante, des regroupements de communes, de villages, de petites villes, déjà. Et surtout, ça a changé dans sa composition. On a éliminé les danses, petit à petit, et accentué l'aspect compétitif des jeux de lutte. En particulier, on a introduit deux nouveaux jeux qui étaient seulement sporadiquement effectués jusque-là, qui étaient le tir à l'arc, qui ne faisait pas partie des jeux rituels auparavant, le tir à l'arc et les courses de chevaux. Or, rien que l'introduction de ces deux jeux a modifié l'ensemble et est revenu modifier la lutte. Voici dans quel sens. Au départ, la lutte, bon, ça fait un vainqueur et un vaincu. Il y en a un qui met l'autre par terre. Mais c'est tout, ça peut s'arrêter là. Au round suivant, on se rebat et les cartes sont redistribuées chaque fois. Or, à partir du moment où il y a aussi le tir à l'arc et la course de chevaux, qui implique qu'il y a un premier et un dernier, donc c'est consécutif, 1, 2, 3, eh bien, la lutte va elle aussi changer. Au lieu d'être un jeu duel qui recommence chaque fois, on va cumuler les victoires d'un même joueur à travers tous les rounds de toute la semaine ou de tout le mois pendant lequel on fait des jeux, parce que ça dure très très longtemps. La lutte qui était auparavant un jeu duel va prendre elle-même une coloration compétitive qu'elle n'avait pas avant et donner lieu à des classements hiérarchiques. On voit aussi que dans ce cadre-là, tous les peuples, c'est celui que j'ai le mieux connu sur place, tous les peuples, et en particulier les Tungus voisins, passent leur temps à vouloir se mesurer l'un à l'autre, mais sans pour autant cumuler. Et c'est dans le cadre des jeux rituels qu'il y a une espèce de cumulation des victoires. La troisième étape, c'est depuis la chute du régime communiste. Alors, chez les Buryats, qui sont une république autonome de la Fédération de Russie, eh bien, il y a toujours ces trois jeux qui sont l'essentiel de cette manifestation annuelle, et ça se passe au niveau de la République, ça tient lieu en quelque sorte de fête nationale, et le but favorable est extrêmement flou, ça devient pour que l'année, si on ne le faisait pas, l'année ne serait pas bonne. Donc au lieu d'être une formulation positive comme avant, on est passé à une formulation négative. Si on ne le faisait pas, ça n'irait pas bien. Ça a donc un petit peu changé, mais l'opinion locale tient toujours pour capital à la fois que ces jeux soient exécutés et qu'il faut y participer. Parmi les changements, ce sont des changements de compétition et d'organisation des jeux qui sont les plus remarquables, mais ce que l'on voit, c'est que les jeux sont restés comme cadre. Ou ce que l'on fait a un autre sens que dans la réalité ordinaire. Et ça, c'est une première chose qui donne raison à Bateson. Finalement, il y a quelque chose qui constitue un cadre de jeu et qui dit, attention, ceci est un jeu. Alors, je viens maintenant à l'association récurrente des deux types de jeux que l'on voit dans les premiers jeux, c'est-à-dire... Je vais me baser sur ce qui se passait sous l'Empire des Tsars, parce que si on veut vraiment comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est un état de société, donc, qui n'est pas influencé par la crise, qui est très peu influencé par la colonisation. Et on voit que non seulement les deux types de jeux, c'est-à-dire la lutte et la danse, sont extrêmement liés entre eux et qui sont liés ensemble à un rituel chamanique par les mouvements que l'on y fait. C'est très corporel, c'est très physique. Les mouvements mis en œuvre s'inspirent tous des mêmes conduites animales et ils sont désignés par les mêmes verbes. Qu'il s'agisse de la lutte, de la danse, aucun des verbes utilisés ne signifie spécifiquement « jouer » dans ces langues, mais toutes ont au moins un verbe qui va dire à la fois trois choses. Je commence par le contexte ordinaire, c'est mouvoir le bas du corps avant l'accouplement en parlant de deux espèces animales, les ruminants cornus, dans ce contexte-là ce sont les grands cervidés, c'est-à-dire les rennes et les élans. En contexte rituel chamanique, de la part du chaman, ça veut dire faire un rituel chamanique, chamaniser, ou bien se conduire physiquement en chaman, c'est-à-dire faire des sauts, des gesticulations, et imiter vocalement des animaux. Et dans tous les contextes, ça veut dire jouer, quasiment dans tous les sens du français. Et il est indispensable pour un jeune garçon de s'entraîner de cette manière-là, ce qu'ils font à peu près toute l'année, pour être capable de se marier, pour avoir la possibilité de se marier. Sur la tête du chaman, vous voyez, il a une couronne qui est surmontée d'une ramure qui est en fer. Les enfants, on leur met très souvent des bonnets avec des cornes, on encourage donc justement cette marque qui est considérée comme une marque de virilité. Le verbe « murgur » en bouryat, le verbe qui veut dire « donner des coups de tête » et « s'encorner », quoi, est aussi utilisé dans le bouddhisme pour dire « se prosterner sur ces planches à savon » qui sont des planches de prière qui sont devant les temples. C'est l'idée de se prosterner et de toucher du front qui est importante. Dans les rituels, dans les jeux contemporains, il y a aussi des réinterprétations modernes, là où les lutteurs se battent avec véritablement des andouillés. Pourquoi ces deux espèces animales? Les cervidés et les gallinacés, donc les coqs, hein, ce que nous avons aussi chez nous, les coqs, sont des espèces chez lesquelles l'accouplement, la préparation à l'accouplement est particulièrement spectaculaire. On ne peut pas comprendre la lutte aujourd'hui si on ne voit pas qu'elle devait être, qu'elle est dans la tête des gens associée à la danse. Pourquoi ? Parce que le modèle animal, la conduite mimée, c'est celle du mâle qui repousse les mâles rivaux pour pouvoir s'unir avec la femelle. Ce sont les deux étapes que reflètent la lutte et la danse. C'est une conduite à fin préparatoire et tout à fait fondamentale dans la notion de jouer, et ça aidera à comprendre tout ce qui viendra par la suite. Et le sens animalier des verbes qu'on a vu utiliser est très parlant de ce point de vue-là, puisque c'est la parade nuptiale chez les oiseaux, le rut chez les ruminants, mais jamais, l'accouplement proprement dit. Ce n'est pas, et ça Huizinga le disait déjà, c'est pas l'accouplement qui est perçu comme jeu, mais c'est sa préparation. Et il s'agit toujours d'un mouvement rapide, qui est limité, qui est fait dans un espace limité, et qui est un mouvement non seulement rapide, mais qui est rythmique, et qui est animé, qui est susceptible de répétition. Alors, il y a une différence pourtant entre ce que font les gens ordinaires et ce que fait le chaman. C'est dans le domaine de l'imitation, je distingue ce qui est l'imitation et ce qui est la simulation. Donc, les joueurs font comme les animaux, mais entre eux, et ça définit leur norme de relation, la rivalité entre hommes et la coopération entre sexes. En renvoyant aux animaux leur image, ils incitent les animaux à se reproduire, ce qui garantit le renouvellement de la vie qui est exprimé comme le but de ces jeux. Le chaman, lui, il fait comme les animaux, mais seul, et il fait plutôt comme s'il était un animal, puisqu'il a cette coiffe qui l'assimile à un animal. Quand il donne des coups de tête, il les donne en l'air, mais c'est pour montrer qu'il se bat réellement contre un chaman rival, lui aussi imaginaire. Il trépigne et il se déhanche. Et pourquoi il fait ça? C'est pour montrer qu'il est prêt à s'unir à un esprit femelle d'espèce gibier, en sorte d'obtenir d'elle de la chance à la chasse pour sa communauté. La chance, c'est ce que les gens détaillent comme étant les promesses de gibier. Si ils ont réussi à séduire une femelle gibier, ils auront, c'est la promesse qu'ils auront du gibier. C'est comme ça que c'est conçu. Cependant, la loi de l'échange oblige le chaman à rendre. Et on voit que c'est toute une conception du monde qui est esquissée par ce petit drame, ce petit théâtre que le chaman joue. Alors voici en gros comment et quelle est cette conception du monde. Dans la vie de chasse en forêt, les humains ne sont qu'une espèce parmi d'autres. Et cette espèce, pour y vivre, doit s'inclure dans la chaîne alimentaire. Alors, de même que les humains se nourrissent de gibier, de même les esprits des espèces animales se nourrissent de chair et de sang humain, d'où la maladie et la mort, le chaman garantit cet échange en épousant, entre guillemets, un esprit femelle gibier, et il doit le gérer, bien sûr, à l'avantage des humains. Il prend à son épouse de la chance et s'offre lui-même, il offre son propre corps à dévorer en guise de promesse de gibier humain. C'est pour ça qu'il a une couronne sur la tête. Il doit montrer que même s'il est viril dans la première partie du rituel, à la fin, il doit quand même finir comme un gibier et s'offrir. Et c'est pour ça qu'il reste étendu par terre, couché sur le dos, complètement inerte. Alors que la période de préparation à l'accouplement a pu durer 10-15 jours, eh bien, ce dernier épisode ne dure qu'une demi-heure, mais il est tout à fait capital. Le bon chaman est bien entendu celui qui arrive à obtenir le plus de promesses et à rendre ou à promettre le moins possible de chair humaine à la fin. Bon, c'est comme ça que ça veut dire... gérer à l'avantage des humains, ça permet aussi de laisser sa place à ce qu'on s'en serait tenté d'appeler tricherie, mais qui n'est pas une tricherie. Pour eux, c'est la règle du jeu d'essayer de gagner au maximum, de prendre le plus possible. Mais on voit comment ça laisse place tout de même à ce que l'on pourrait qualifier de tricherie. Alors, ce sur quoi je voudrais finir cette petite présentation, c'est sur la position qu'il a, c'est celle du mari, et c'est lui qui joue. On voit déjà que jouer est un acte orienté, asymétrique, et c'est un acte éminemment genré, dans mon exemple, enfin, puisqu'on dit genré aujourd'hui. D'ailleurs, vous verrez bien que le terme « jouer » en français s'emploie, et dans beaucoup d'autres langues, s'emploie aussi à la forme passive. On peut se jouer de quelqu'un et on a été joué par quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que jouer est un acte, si je peux dire, actif. Les jeux servent donc à ancrer cette vision du monde et à l'ancrer dans le corps et à l'imprimer finalement dans chaque participant sous la forme de conduites qui vont devenir tout à fait spontanées. Quand on voit un autre garçon, on lutte contre lui. Voilà, enfin, je veux dire que ce sont des comportements qui sont profondément intériorisés par cette pratique physique, par cette pratique corporelle. Ça apprend l'identité, l'altérité. Ce sont les jeunes essentiellement qui jouent, mais les vieux doivent être présents et doivent les encourager. Donc c'est bien un rituel vraiment collectif où le spectateur joue une part absolument essentielle, constitutive. Sans eux, ça ne serait pas possible. Un sentiment d'identité à la fois individuelle et collective. Et ça apprend, dans la vie, il faut se défendre et se perpétuer. je voudrais souligner que l'asymétrie sexuelle n'est pas une question de différence biologique. C'est la structure des relations qui fait de la sélection du mâle la condition de l'accès à la femelle. Bon, Winnicott les ont passés. Donc, la leçon de ça, c'est qu'un groupe qui sait différencier les hommes en son sein se rend maître de ses relations avec tous les autres, qu'il s'agisse des humains d'autres groupes, du monde animal environnant ou du monde surnaturel. Se mettre dans la position du joueur, c'est adopter une position dans laquelle on est susceptible d'acquérir une supériorité. Ça persuade les humains qu'ils sont, face aux esprits des espèces sauvages, ce que le mari est à la femme, en position de supériorité parce qu'il a écarté les prétendants rivaux. Et c'est donc de cette manière-là qu'il a des droits sur eux, comme il en a sur sa femme qui doit coopérer avec lui. Ils sont donc complémentaires dans la perspective de la reproduction générale. C'est donc bien un modèle réduit d'une vision, un modèle réduit, qui est un terme souvent employé pour les jeux, un modèle réduit d'une vision globale du monde et de la société. Il y a deux sources d'écart à exploiter. L'une que j'appelle la structuration métaphorique et l'autre qui est la marge. Et parmi les définitions possibles de la métaphore, c'est à celle de Lakoff que je me range. Pourquoi ? Parce qu'il montre bien que la métaphore permet de comprendre quelque chose et d'en faire l'expérience dans les termes de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on ne transpose pas un terme, mais on va piocher dans le stock de son expérience pour désigner quelque chose qui est inconnu ou abstrait, et en tout cas sur lesquels on voudrait pouvoir se donner une emprise. Ça consiste à attribuer à une chose abstraite, outre le sens intuitif dont on a l'expérience, les implications de ce sens. Et l'écart entre les deux quelque chose doit n'être ni trop grand, si c'est trop grand, ça ne serait pas pertinent, ni trop petit, ça risquerait d'être confus. Donc, c'est pourquoi la métaphorisation, elle est sélective, on choisit, n'importe quoi ne peut pas être la métaphorisation de n'importe quoi, et elle est partielle, elle va convenir dans un contexte et pas dans un autre contexte. Bref exemple, vous pouvez demander la main d'une jeune fille, mais vous n'épousez pas sa main. Et vous n'avez pas une histoire de main avec elle. Oui, pour finir avec la métaphorisation, je voudrais simplement dire que c'est parce que le jeu est lui-même de nature métaphorisante qu'il se prête à servir de métaphores les unes sur les autres. Vous connaissez peut-être le livre de Jacques Henriot qui s'appelle « Sous couleur de jouet, la métaphore ludique ». Mais alors, lui, c'est tellement métaphorisant qu'il n'y a que ça. Or, moi, je préfère Lakoff qui dit que c'est sélectif et que c'est partiel et le sens initial du mot que l'on utilise est tout à fait important. Il faut préciser les choses. Alors, la marge, c'est tellement évident que je vais sauter pour gagner du temps. Et pour dire quand même, c'est le fait qu'il y ait une marge qui fait que vous pouvez jouer plus ou moins bien et donc qui permet d'attendre un effet de ce que vous allez faire en tant que jeu. Et c'est ce qui fait que jouer bien permet de créer une anticipation positive. Pourquoi c'est cette marge qui fait que le jeu est indéterminé? Et c'est parce qu'il est indéterminé que justement on joue, c'est parce que l'avenir est indéterminé qu'on peut jouer pour l'infléchir. Alors, non pas infléchir véritablement l'avenir, mais infléchir sa propre attitude face à l'avenir. Les jeux, on a vu, je vous l'ai dit, ça suscite une attente, et c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, et pourquoi c'est comme ça? Enfin, ça explique la fonction préparatoire des jeux et ça explique que ça soit toujours finalement une allusion au préparatif de l'accouplement et non à l'accouplement lui-même. La littérature anthropologique montre que ces types de jeux sont extrêmement répandus. Je me suis dit, c'est quand même extrêmement bizarre, surtout avec les Jeux olympiques aujourd'hui, qu'on ait une conception si dévalorisante du jouet en Occident. et que ça soit complètement absent de la littérature anthropologique, enfin comme on l'a dit déjà hier, et surtout que ça soit si lié avec les enfants, le divertissement, etc., ou au contraire les jeux de hasard, etc. J'ai recherché dans l'histoire de l'Occident chrétien. Bon, ça avait été déjà critiqué par les Grecs, mais dans le fond, c'est le monde chrétien qui est le plus intéressant, et les pères de l'Église sont extraordinaires pour ça. Le plus méchant, c'est Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, qui vous dit « Vos pieds sont pas faits pour sauter et pour danser, mais pour marcher modérément, un pied devant l'autre, et c'est pour ça qu'il y a eu les processions et les défilés militaires. » Le plus intéressant, c'est Tertullien, qui dit « Les jeux, c'est blâmable parce que, sur les places publiques, le citoyen romain apaise et condamne les querelles. Il n'aime pas voir du sang couler. Mais voilà que dès qu'il est dans le stade, il applaudit quand il y a le sang qui coule et que c'est le sang des gladiateurs. » Bon, et dans le fond, Tertullien, 18 siècles avant Bateson, il avait compris que les jeux comptaient comme cadre. Voilà, l'autre raison, c'est parce que quand on joue, on met le spectateur ou l'adversaire sur le même plan que soi-même. Or, c'est pas possible de jouer avec Dieu. On joue avec quelqu'un qui est de même niveau que soi, avec qui il peut y avoir une alternance dans le jouer, mais Dieu, on ne lui doit que prière et soumission. Alors, je passe à ce que je voulais dire aujourd'hui, et qui est un peu un prolongement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces Jeux olympiques, enfin ces Jeux d'autrefois, les Jeux olympiques aujourd'hui, que depuis un siècle, on voit que c'est en train de devenir, ou c'est devenu même déjà le plus grand rituel mondial de tous les temps ? Pourquoi ça s'appelle jeu, alors qu'en fait que derrière, c'est plutôt, on dirait plutôt des sports, et ça a un côté rituel absolument manifeste. Et ça supporte l'identité des nations. Enfin, tout le monde va au JO avec son drapeau. Et par ailleurs, on a le développement, enfin si on revient, s'il y a une certaine actualité du jeu, c'est grâce au jeu virtuel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces concepts ? Et... Virtualis vient de la théologie du Moyen-Âge tardif, et dès le départ, c'est très clairement opposé à actuel et non pas à réel. Et on parle bien d'ailleurs de réalité virtuelle dans le monde du numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire actuel dans la théologie ? On parle d'actuel à propos d'une intention. Si le prêtre pense vraiment au Christ au moment où il accomplit le rite, et son intention est dite virtuelle, si ses pensées l'emmènent ailleurs, mais l'intention virtuelle va suffire à valider le sacrement si les règles établies par l'Église sont respectées. Alors j'ai trouvé chez Horsfield, qui est spécialiste de théologie, une explication que je trouve très bien. La notion de réalité virtuelle décrit avec justesse ce que la théologie cherche à faire, c'est-à-dire créer un monde immatériel ayant la vertu d'influer sur notre situation actuelle en nous incitant à explorer mentalement d'autres possibilités en vue de le transformer. C'est-à-dire, créer la réalité virtuelle, c'est dans le fond tout à fait proche de jouer défini comme créer une anticipation positive de l'avenir. On ne peut pas, on peut dire, enfin dans tous ces cas-là, créer une anticipation positive de l'avenir, ça demande qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de rêve, qu'il s'agisse d'utopie, qu'il s'agisse de jeu, bien sûr, il faut y croire. Et cette attitude de croyance est ce qui va distinguer les gens qui marchent, qui s'engagent dans un jeu ou qui ne s'y engagent pas, ceux qui croient à leurs rêves et ceux qui n'y croient pas. Alors, on peut dire que cette attitude de croyance permet de comprendre pourquoi la création d'un espace virtuel ne débouche pas forcément là-dessus. Par exemple, un héros de roman ou un héros de cinéma va bien appartenir à un espace virtuel, tout autant qu'un saint. Mais vous pourrez adresser une prière et attendre quelque chose d'un saint, vous ne le ferez jamais d'un héros de roman. On sait aussi, en revanche, que les romans de science-fiction inspirent des innovations scientifiques. Et on a l'expérience aussi que certains clics qu'on fait dans le monde virtuel vont débiter directement votre compte en banque. Donc, on ne peut pas non plus faire une coupure très nette entre toutes ces choses-là. Je dirais que dans le monde du rituel aussi, on a ça. On a finalement deux grandes catégories de rituels. Les rituels qui sont de forme ludique, c'est-à-dire le résultat n'est pas automatique, comme tous les rituels de guérison. Et on a d'autre part les rituels qui sont liturgiques, à la manière de la liturgie catholique qui vous dit ex opere operato, c'est-à-dire ça fonctionne automatiquement du moment que vous faites le bon geste. Ça fonctionne, le signe de croix, il fonctionne, ex opere operato, et dont le résultat est donc automatique. Il y a donc ces deux choses-là, ça serait beaucoup plus compliqué, pardonnez-moi de galoper, mais je voudrais quand même dire, pour finir, le rapport avec la virilité, tout ça, virtualité et virilité viennent tous de vir. En latin, et il se trouve que virilité, ces choses-là, ça n'est pas seulement, disons, dans notre langue, mais les jeux bouriates et mongols et les jeux sibériens que je vous ai présentés, ils s'appellent tous des jeux virils, et le terme viril est aussi fondé sur le mot qui veut dire mâle, et l'idée de virilité est bien présente d'une façon tout à fait similaire. La chose qu'on voit importante, qui est importante, c'est que virilité, ça n'est pas masculinité. Vir, ça n'est pas le mâle. Vir, c'est le mâle accompli, le mâle adulte, envisagé dans son statut de mari et dans son statut de guerrier. Et la virilité reste en puissance, elle est virtuelle, tant qu'elle n'est pas actualisée. C'est donc jouer, pour toutes ces populations-là, c'est la modalité du faire, c'est un faire qui prépare, en quelque sorte. Il me semble qu'on peut, pardonnez-moi d'être un peu caricatural, hein, mais je dis que ça peut éclairer non seulement l'insistance des peuples sibériens à affirmer que jouer de leur mieux, c'est pour eux un devoir, que c'est ça qui les prépare à devenir des êtres accomplis, adultes, capables de se défendre et capables de se reproduire. C'est ça qui fait que pour eux, ça peut devenir une fête nationale, le support d'une fête nationale, où on exprime son identité et son but. Mais ça explique aussi la tendance à développer toujours davantage les jeux de type lutte au détriment des jeux de type danse qui sont plus coopératifs entre tout le monde. C'est-à-dire, ça développe un esprit de compétition au détriment d'un esprit de coopération, tout en l'intégrant quand même, parce que ce que l'on voit tout à fait régulièrement, d'ailleurs comme chez nous, même quand vous faites un défilé militaire, eh ben vous avez aussi le petit bal du soir, mais qui n'est pas sur la place publique. Mais vous avez quand même le petit bal du soir. Et alors, donc, avec tous ces jeux qui montrent les sports sur le stade, ou des trucs comme ça, eh bien, il y a des fêtes populaires où les femmes sont incluses. Alors, voilà. Et donc, plus un pouvoir se veut, c'est la victoire reconnue qui rend pleinement actuelle la virilité du vainqueur et lui permet d'affirmer sa position face à un autre groupe, ou face à la nature, ou face aux esprits, s'il croit aux esprits. Plus un pouvoir se veut fort, plus les facteurs discriminants vont importer. Et plus la société compétitive, plus la virilité doit être préparée pour avoir la vertu d'opérer. C'est grâce à l'articulation de la métaphore et de la marge que les réalités virtuelles, finalement, qu'elles soient des jeux physiques ou d'autres types de réalités virtuelles, préparent à faire face à des réalités empiriques par le fait qu'elles sont à la fois proches, c'est le comme si, et distinctes d'elles, mais pas tout à fait, not quite, comme disent les Anglais. Et le monde du jeu et celui du virtuel ont également en commun, du virtuel compris au sens théologique, ont également en commun de renvoyer au monde de l'expérience, tout en ignorant les contraintes qui l'entravent, pour donner prise à l'innovation et d'avoir en puissance une dimension religieuse.
Bon, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est formidable.